Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
Du monde d'après, dont on était sûr qu'il serait radicalement différent, il n'est pas resté grand-chose de plus marquant, de plus pérenne et de plus fou, d'une certaine façon, que le télétravail. À la radio, par exemple, on a appris à produire une antenne complète sans bouger de chez nous. Au début, c'était artisanal. Au pied sur terre, par exemple, on faisait des entretiens au téléphone en se mettant sous nos couettes pour que le son soit plus feutré. Et puis, le génie de la radio a développé des outils pour faire des interviews à distance. Les responsables d'antenne ont géré les conducteurs depuis chez eux. On s'est organisé. Plus tard, des accords sur le télétravail ont été signés et c'est vrai que ça n'a plus jamais été comme avant. Une majorité de collaborateurs et de collaboratrices de l'émission est partie vivre en dehors de Paris. Ça n'était plus un problème, enfin pas vraiment. Évidemment, les outils les plus étonnants qui se sont développés alors ont été les applis de Visio, Zoom, puis Teams et d'autres pour se réunir à distance. C'est devenu une habitude qui n'a pas disparu, de travailler en bas de pyjama en ne montrant que le haut. Il y a eu des dérives, des histoires drôles, il y a même eu un meurtre pendant une réunion Zoom, un fils qui a tué son père à Amityville, déjà célèbre pour la série de films d'horreur. Il y a eu aussi un politicien qui a oublié de couper sa caméra quand il était aux toilettes, et plusieurs histoires dans ce genre. Et moi, petit bras, j'avoue que j'ai joué au ping-pong pendant une réunion ennuyeuse, après avoir coupé le son et l'image, et je ne me suis pas fait prendre. Tout de suite donc, dans les pieds sur terre, on continue notre série « Le confinement, ce qui nous est arrivé » avec le télétravail et ce qui en est resté. Deux récits fort contrastés, signés Rémi Dibowski-Douette.
Moi, c'est Hugo. Je travaille en région parisienne en informatique depuis 10 ans. Avec le début du Covid et le premier confinement, ma vie professionnelle a basculé dans le full télétravail. Depuis 2020, je suis en moyenne à 99% en télétravail. Et pour moi, c'est plutôt bien tombé, puisque je suis devenu papa 3 mois avant le confinement. Moi, ça m'a permis d'être là pour mon fils, de le voir grandir. Donc, ça a été les réunions le matin avec... lui qui fait la sieste accroché sur mon ventre, ce qui permettait à ma compagne de se reposer pendant ce temps-là et qui nous permettait de gérer la fatigue, le rétablissement de ma compagne, les différents réveils de notre fils pendant la nuit. Et donc là, moi, ça m'a fait gagner mes temps de trajet. Donc c'est 3 heures par jour de gagner, c'est 15 heures par semaine, c'est plus d'un tiers de mon temps de travail. Là, avec mon fils... Alors j'ai la chance de m'occuper de le réveiller, de lui donner son petit déjeuner, de discuter sur le chemin de l'école. Le soir, ça nous permet de lire ensemble, de lui apprendre des choses, de discuter. Ça me permet d'avoir une place dans la vie de mon fils qui est beaucoup plus importante. Bon, l'année 2020, il y a les multiples confinements qui fait que, bon, de toute manière, il n'y a pas trop de remise en cause du télétravail. Début 2021, je change d'emploi pour rejoindre une entreprise avec un millier de salariés en service informatique et où le télétravail, bon, est resté dans les mœurs après les confinements. Je suis arrivé dans une équipe qui était éclatée entre Paris, la Bretagne, les Pyrénées et l'Espagne. Donc moi, je leur ai évoqué à ce moment-là le fait que j'avais envie de partir en province, de quitter la région parisienne, et que bah, le télétravail me le permettait. Et donc je me dis, bon, bah c'est bon... Niveau de travail, ça ira, ils me laisseront partir en 100% télétravail et m'éloigner de Paris. Donc en 2022, au bout d'un an et demi dans cette entreprise, on va changer de chef. Notre nouveau chef n'est plus en région parisienne, mais en Bretagne. Et par contre, un petit peu après, on commence à nous dire « Ah, mais en fait, ça serait bien que vous veniez plus souvent sur site. Et la problématique, c'est que en fait, bah, la plupart du temps, on arrive sur site et on fait du télétravail sur site. Et c'est des vidéoconférences avec ceux qui sont à l'étranger ou en province, à qui on ne demande pas de venir une fois par mois sur site et encore moins toutes les semaines. Et bah, on arrive sur un peu quelque chose d'absurde où on perd 3 heures de vie dans les transports en commun pour venir sur site, pour faire la même chose que ce qu'on aurait fait à la maison. Il n'y a pas plus de supervision que si on était à la maison. Et à la limite, encore moins de communication entre nous parce que on est tous avec nos contraintes personnelles. Tout le monde n'arrive pas au même moment parce que il faut poser les enfants soit en garde, soit à l'école, et que du coup, bah, on arrive en décalé. Le soir, c'est pareil, tout le monde n'a pas les mêmes contraintes, donc on repart pas tous au même moment, voire même un petit peu de tension des fois avec justement des collègues qui viennent pas, mais qui préviennent pas, et donc du coup, ça perd encore plus de son intérêt de venir sur site. C'est plus facile de passer 1 heure à distance ensemble ou au moment où on raccroche, on est à la maison et on peut quand même faire notre part de tâches à la maison, voir nos enfants avant qu'ils aillent se coucher, que quand on est sur site, on reste 1 à 2 heures de plus, après il faut rentrer chez soi, donc en fait on rentre à 21 h et voire minuit des fois, et bah du coup bah, on n'a pas vu nos enfants. Côté management et entreprise, du coup moi j'ai des discussions avec des gens que je connais qui sont à des postes de manager et qui ont cette vision-là de j'ai besoin d'avoir les gens sous les yeux pour vérifier qu'ils sont bien en train de travailler. Et en fait ces personnes-là me disent ah mais comment est-ce que on est sûr que Michel il travaille toute la journée, que Michel il fait son travail correctement, qu'il fait pas trop de pauses. Mais à côté de ça, on a des travailleurs qui vont être plus efficaces, moins fatigués, qui vont être moins pointilleux sur leurs horaires parce que bah, ils peuvent se permettre, tiens, là il y a une charge de travail supplémentaire, je travaille 1 demi-heure de plus, que quand on est sur Paris, qu'on a 1 heure et demie de transport derrière nous, si tout va bien, et qu'on se dit, ah bah oui, mais si je pars pas maintenant, que je pars dans 1 demi-heure. Peut-être que là, moi, il y a des problèmes sur le RER et que du coup, je mets 1 heure, 1 demi-heure, 40 minutes de plus pour rentrer chez moi. Fin d'année 2023, on se retrouve avec notre employeur qui veut qu'on revienne sur site dans une équipe où ça ne se justifie pas du tout. Et donc là, moi, ça précipite ma décision de quitter l'entreprise parce que le retour sur site, même 3 jours par semaine, c'est un effondrement de mon organisation, de ma vie de famille telle que je la pratique depuis 5 ans. Et du coup, bah, je démissionne. Je me mets en indépendant parce que c'est l'une des rares manières que j'ai à ma disposition de garder la main sur est-ce que je télétravaille ou est-ce que je vais sur site? Et voilà, donc c'est un peu compliqué parce que plus généralement les entreprises sont en train de faire un retour sur le télétravail. Mais en tout cas, moi je vais faire tout ce que je peux pour continuer à télétravailler à 100%.
Je m'appelle Pierre, j'ai 50 ans, je suis directeur commercial d'une grande entreprise française. Pour moi, cette histoire a commencé juste en 2020, donc lors du confinement. Au départ, tout allait bien, dans le sens où on me demandait de rester à domicile, de gérer mes dossiers à domicile. Donc on était contents, on était chez nous, on pouvait gérer facilement nos clients, puisqu'il y avait tout le côté dématérialisé. En 2020, on était avec du contact téléphonique, on était avec du contact par mail, et malgré tout, ça a marché pour beaucoup de produits, dont les nôtres, sur le fait que les clients continuaient à acheter. Les gens se sont mis à consommer. Donc on a vu l'explosion des demandes. Mon entreprise a demandé à mes collègues et à moi de gérer 2 à 3 fois plus de demandes que nous en avions auparavant. Au tout début, ça allait encore. J'étais à la maison, donc j'étais tranquille, j'étais décontracté, déstressé. Fin 2020, j'ai vu une bascule. Au fur et à mesure, j'ai commencé à voir toutes les réunions s'accumuler. C'est arrivé que j'avais 2 à 3 ou 4 réunions en même temps. Il y a ce jour où j'étais en train de répondre à des mails d'un côté. J'avais une réunion de présentation de produits marketing que j'étais en train de suivre donc en visuel sur mon écran. Et j'avais de l'autre côté une autre réunion que j'étais en train de suivre en oral avec mes écouteurs parce que c'était une autre réunion sur laquelle j'avais de la prise de parole à faire. Et en même temps, j'étais en train d'assister à une autre réunion qui était une réunion dans une autre langue. 3 réunions en même temps, le cerveau n'arrive pas à suivre. Ces réunions étaient absolument obligatoires. On ne nous donnait pas le choix sur le fait de dire « je peux ou je ne peux ne pas être présent sur ces réunions ». Pourtant, j'avais le sentiment en fin de réunion d'être inutile. Avoir été mis dans une réunion pour même pas une prise de parole de 5 minutes, pour une heure et demie de réunion, où les 3/4 des personnes ont parlé de ce qu'ils ont fait, eux ont une occasion de pas écouter ce que les autres ont fait. J'ai même des cas précis où j'ai assisté à des réunions, la personne avait présenté ses slides, et 2 secondes après ses slides, je savais qu'elle était plus connectée. Alors que nous, on était obligés de suivre tout jusqu'au bout. Ça, c'est vraiment une spécificité qu'on a vu apparaître avec le télétravail et avec la relation à distance. Regardez le nombre de personnes en télétravail qui n'ont pas leur caméra allumée. Pensez-vous qu'ils sont vraiment en train de suivre la réunion? Non. J'ai un cas précis que je connais où la personne, on était en pleine réunion, en même temps, il était en train de se baigner dans sa piscine. Le fait en même temps que toutes ces réunions, cette réunion NIT qui était vraiment très importante et très intense, les mails commençaient à s'accumuler. Des mails en permanence, en cascade, avec des choses qui auraient pu être réglées simplement en bougeant d'un bureau à un autre lorsqu'on est en présentiel. Mais là, lorsque vous êtes à distance, les gens vous envoient un message et s'attendent à ce que vous répondiez tout de suite. Il y a tellement de choses sur lesquelles on me demande de prendre des positions qui ne sont pas ce pourquoi j'ai été embauché, parce que je me retrouve à faire le travail de personnes qui sont à la qualité, au suivi après-vente, au suivi après-expédition, à la finance, à la comptabilité, même des fois au juridique. Par le télétravail, les gens se sont mis à le jeu de la patate chaude. Grosso modo, on n'a pas le temps de gérer ça, donc on le renvoie à quelqu'un d'autre, et il y aura automatiquement quelqu'un qui le fera. Et lorsque vous êtes quelqu'un d'impliqué et quelqu'un qui prenait votre métier à bras-le-corps, vous allez gérer ces problèmes. Vous êtes un gestionnaire de problèmes, vous êtes quelqu'un qui apportait des solutions. Et bien au bout d'un moment, on n'arrive plus à apporter des solutions. Au bout d'un moment, le corps vous dit gentiment, attention, tu vas lâcher. Mon médecin a fait le lien entre le télétravail et mon état physique lorsqu'il a vu clairement que j'étais ce qu'on appelait un épuisement professionnel, mais j'en étais pas encore à des symptômes graves. Les symptômes à ce moment-là, c'était principalement des maux de ventre, des migraines à répétition, un épuisement physique marqué, des cernes que j'avais pas avant, par exemple. Je me suis mis à avoir vraiment les yeux très cernés, mais c'est dû au fait du manque de sommeil, hein, c'est pas difficile. J'ai jamais été crevé à ce point. Une fatigue que l'on n'arrive pas à récupérer, qu'on n'arrive pas à ressourcer. Une fatigue où même le week-end on travaille. Je commençais une to-do list le lundi. Le lundi soir, j'avais à peine fait 10% de ma to-do list, que je reportais au mardi, que je reportais au mercredi, que je reportais aussi. Et le vendredi, je me retrouvais avec une to-do list infernale à faire avant lundi suivant. Donc je travaillais le samedi, je travaillais le dimanche matin. J'ai négligé ma vie de famille, qui en a beaucoup souffert. J'ai failli faire éclater mon couple. Ma moitié étant aussi en télétravail, deux personnes en télétravail dans le même appartement, automatiquement, ça crée des conflits, parce que si les deux ont la réunionite en même temps, faut faire attention au son, faut faire attention à la proximité. Automatiquement, les générations de stress sont extrêmement importantes, pour l'un comme pour l'autre. Donc, on dit toujours que lorsqu'on rentre chez soi, on oublie le travail, là, le travail, il est chez vous. Donc vous n'oubliez pas le travail. Donc vous arrêtez de travailler, vous êtes chez vous. Donc vous allez dîner le soir, vous dînez au travail. Et vous êtes deux à dîner au travail. Donc tout le stress que vous avez accumulé pendant la journée, vous le déversez sur l'autre le soir. Mon couple a failli clairement exploser, plus d'une fois. Et dans le sens où, puisque nous avons tous les deux des jobs avec responsabilité, impossible de désamorcer. Automatiquement, on en était à... On a fait chambre à part. On ne vivait pas, on travaillait. Et la réouverture, la fin du confinement, le fait de pouvoir de nouveau bouger, ainsi de suite, ça nous a fait comme un bol d'air. Sinon, je pense qu'on serait plus ensemble. Le télétravail est une chose, mais après, le retour à la vie... Les déplacements sont venus se rajouter en plus du télétravail, parce que j'avais la chance d'être en télétravail 2 jours par semaine. Vous vous retrouvez des fois, par exemple, dans votre voiture, à aller visiter des clients, avec votre Teams ouvert. Vous êtes en train d'écouter une réunion, et en même temps, vous êtes en train de suivre les slides d'une autre réunion sur votre écran, alors que vous êtes en train de conduire. Et ça, je l'ai vécu plus d'une fois. Parce qu'il faut comprendre, c'est que après le confinement, les habitudes qui avaient été prises durant le confinement ne se sont pas arrêtées. Elles sont continuées, elles ont même amplifié en ce qui concerne le télétravail. C'est-à-dire qu'on nous demandait, malgré le fait que nous ne soyons plus confinés, d'avoir autant de disponibilité, autant d'assertivité par rapport à l'entreprise, autant de disponibilité par rapport à l'entreprise. 35 heures, c'est par jambe. Les cadres, actuellement, on est à 60 heures par semaine, minimum. Surtout les cadres commerciaux dans les entreprises privées. On ne donne pas le choix par rapport à cela. Je peux parler de moi, mais je peux parler de tous mes amis qui sont cadres sup et qui ont une 50aine d'années et qui sont dans tous les domaines d'activité. Je pense être le seul. Et dès que je commence à ouvrir ma bouche, et tout le monde m'a dit, mais tu croyais tout seul à vivre ça? Mais moi, c'est pareil, j'en peux plus, je vais exploser. Telle personne dans le médical qui me disait « mais moi, je vais les tuer ». Telle autre personne dans l'agroalimentaire qui me disait « mais c'est pas possible ». Ils nous demandent plus de résultats d'avant le Covid, en faisant plus d'actions, parce qu'ils ont sucré énormément de personnes. Le nombre de postes qui ont été détruits durant les années Covid, vous croyez qu'on va les récupérer? Certainement pas. En 2022, ma compagne m'a fait comprendre que j'avais des arrêts respiratoires pendant la nuit. J'ai commencé à être un peu alerté par rapport à ça. J'en ai parlé à mon médecin traitant qui m'a renvoyé sur une pneumologue. On a fait des tests. Et il s'est avéré que je faisais en effet de l'apnée du sommeil grave. J'ai fait jusqu'à 36 apnées du sommeil par heure. Avec ce qu'on appelle des AIT, ce sont les arrêts cardiaques. Des micro-AVC. Ce qui s'est passé ensuite en 2023 et qui a commencé à être un gros facteur d'alerte par rapport à mon médecin, a été le fait que je commençais à avoir de plus en plus de problèmes intestinaux et la boule au ventre. Pas faim, perte de poids, j'ai perdu plus de 15 kilos quand même. Donc en l'espace de 2 ans, plus envie de rien. Je dirais pas un syndrome dépressif, mais simplement le fait de plus d'appétence. J'avoue que je suis un bon français franchouillard et j'avoue que j'aime bien la bonne bouffe française. Un bon malgré canard, et ben là, rien. Une tranche de jambon avec de la purée, ça me suffisait, et encore, je les finissais pas. Et surtout, on a remarqué une chose, ben, je commençais à avoir des reflux gastriques et des envies de vomissement de plus en plus marquées. Et ça, ça commençait à vraiment alerter mon médecin traitant. Il y a maintenant une bonne année, j'ai commencé à aller au travail, et à peine arrivé au travail, le fait de passer la porte de mon entreprise, je déposais mes affaires, je filais aux toilettes, et j'allais vomir. Systématiquement, tous les jours. Donc lorsque j'étais en télétravail, donc 7h du matin, petit-déj, ainsi de suite, un peu avant, j'ouvrais mon ordinateur, le simple fait d'ouvrir mon ordinateur, j'allais vomir. Ma relation à mon entreprise, la relation au travail, devenait vomissement. En 2023, on a eu un changement de management très important avec quelqu'un qui n'était pas de notre milieu à la base et qui nous a mis une suractivité au niveau du télétravail. Plus de mails à gérer, plus de réunionites, plus de présentations PowerPoint à faire, en plus de notre activité professionnelle. Là, ça s'est encore accéléré. On arrivait au point de non-retour en début d'année dernière, où, quasiment du jour au lendemain, mon nombre de clients a presque doublé. Mon objectif commercial a presque doublé. Et le télétravail, automatiquement, a été multiplié. Si vous avez plus de clients, ben, le télétravail que je faisais avant pour moins de clients a automatiquement été augmenté. J'avais des mails qui arrivaient de partout, parce que j'ai jusqu'à 5 fuseaux horaires à gérer. Et là, je me suis retrouvé avec des demandes qui explosaient venant à 5h du matin et des demandes à répondre très tard le soir. Et des clients qui ne comprennent pas pourquoi vous ne répondez pas. À 7h du matin, lorsque j'ouvre mes mails, j'avais entre 50 et 60 mails qui s'ouvraient et j'arrivais pas à les lire tous. Tous les mails ne sont pas indispensables. J'ai l'un de mes correspondants au niveau travail. Ils sont 12 à recevoir les mails en même temps, parce que ce sont des mails envoyés à tout le monde. Tous répondent aux mails. Oui, j'ai bien reçu. Mais ils répondent, oui, j'ai bien reçu, à tout le monde. Donc vous recevez tout ça multiplié par le nombre de personnes. J'ai pris conscience que je vais agir. Renvoyer à tout le monde. Ah, c'est bien, merci, oh, c'est à tout le monde. Et ça, vous devez quand même les ouvrir pour savoir que... Donc vous ouvrez, vous effacez, vous ouvrez, vous effacez. Vous faites ça pendant 2 heures. Alors sur la journée, ça me fait entre 100, allez, on va dire facilement 200 mails que je reçois dans la journée. 200 mails par jour multiplié par les 2 minutes par mail, ça fait 400 minutes. En même temps, on vous demande d'assister à 8 réunions par jour, 8 réunions d'une heure. Ça fait combien de temps de travail par jour? Vous tenez à 10 heures de travail par jour, minimum, sachant que vous n'aurez pas pris de pause pendant l'heure de déjeuner. À un moment ou à un autre, vous avez le corps qui vous dit stop. Là, le corps, il lâche. Là, vraiment, je vomissais encore plus, alors ça continue à maigrir. Et puis, j'ai commencé à avoir des problèmes de palpitations au niveau cardiaque. Dès que j'ouvrais mon téléphone pour lire mes mails, j'avais l'angoisse d'avoir un problème à gérer que je n'ai pas vu passer. Quand vous avez autant de mails qui arrivent, c'est la peur de ne pas avoir vu quelque chose d'important passer que vous auriez dû gérer et que vous n'avez pas le temps de gérer. J'en étais arrivé à prendre des fortes doses d'anxiolytiques, des fortes doses d'antidépresseurs, à des points que des fois j'avais l'impression de ne pas toucher terre, d'être sur un nuage. Et là, mon médecin traitant a dit stop. Stop, là je te mets en arrêt médical immédiatement. Là tu vas exploser, tu t'arrêtes, il faut que tu te reposes. On va diminuer ça, tu vas voir un psychiatre. Je suis allé voir un psychiatre, et qui, dès le départ, je lui ai parlé, il m'a dit, ok, je vous certifie arrêt pour burn-out. Parce que clairement, là, vous allez exploser. C'est votre vie que vous mettez en danger. C'est inhumain. Alors aujourd'hui, je suis content de ce repli que j'ai fait sur moi-même. Ça fait maintenant 6 mois que je ne travaille plus. Je vais revenir dans ma marque et en full-time prochainement. Je suis heureux de venir à ma marque telle que c'était avant dans le positionnement de poste. Je vais faire ce pourquoi j'ai été embauché, ce qu'il y a dans ma fiche de poste. Je vais ramener du chiffre tel que je sais très bien le faire. Je ne laisserai pas avoir autant d'emprise sur moi. Je vais donc mettre un frein à l'emprise du télétravail sur ma vie personnelle. Je n'ouvrirai mon ordinateur qu'à partir de 9h du matin. À 19h le soir, j'aurai coupé mon ordinateur et je vais mettre ce que beaucoup de personnes ont mis dans leur mail en signature sur les heures correctes de travail et le droit légal à la déconnexion. Il est hors de question que désormais, je sacrifie mon temps personnel et mon corps et ma vie. Je travaille pour vivre. Il est hors de question que je vive pour travailler.
C'était le télétravail et sa naissance, un reportage de Rémi Dibowski-Douat réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Pierre, à Hugo, à Valentin Rémy, l'attaché de production des Pieds sur Terre, et à Luce Mourant, notre stagiaire. Started out all alone, and the sun went down as it crossed the hill, and the town lit up, the world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. The hardest thing were the good old days may not return, and the rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. The hardest thing. Some say life will beat you down and break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. Around the clouds, but what goes up must come down. Thing. I'm learning to fly.